L'épopée de 17 moines bénédictins originaires des Aldudes, racontée par Mickaël et Ramouspé. Bonjour chers auditeurs, bonjour Mickaël et Ramouspé. La dernière fois, nous avons vu que la génération des moines nés dans les années 1860 à 1880 s'est un peu à peu, mais la source des Aldudes ne s'est pas encore tarie et d'autres jeunes vont également frapper à la porte de Belloc.
Oui, bonjour Alexandre, mais nous n'en avons pas encore fini avec les moines des Aldudes, puisqu'il nous faut maintenant parler de Jean-Pierre Enda de la maison Marcoigna et Adrien Gachitegui de Belaïmborda. Commençons par Jean-Pierre Enda, il est né en 1911 aux Aldudes. C'est le neveu du père Arnaud Laxag. Il n'a que 5 ans lorsqu'il perd son père, mort à la guerre, en 1916. Dans les souvenirs d'enfance qu'il nous a laissés, il raconte dans un style digne d'un roman, je le cite. « Il ne m'arrive guère de passer sur le pont dit Etchecol, le premier tournant d'où l'on aperçoive, en venant de Bayonne, la longue façade du monastère sur 100 collines, sans me rappeler le mot de ma mère, l'après-midi du 7 septembre 1920, j'avais 9 ans. Regarde Jean-Pierre, voilà Belloc. C'est là que tu seras. » Le père Arnaud avait fait venir en gare d'Urt le petit cabriolet du meunier, surnommé Pozzolo, et c'est au trot de son baudet que nous allions vers ce Belloc, au dire de mon oncle, vestibule du paradis. Pour ma mère, au lieu quelque peu maléfique, qui lui enlevait son fils unique. Pour moi, ouverture sur des perspectives aussi vaporeuses que dorées. On nous attendait. La Noumla, autour de ses deux surveillants, montait la garde au portail d'entrée. Pendant que le premier surveillant s'empressait autour du nouveau et de sa mère, une quinzaine de pères d'yeux me dévisageaient. Et de mon côté, je ne perdais pas mon temps. Tous étaient plus grands que moi. Quelques élèves de rhétorique ou de philosophie avaient largement passé l'adolescence. Il y en avait même un qui avait participé aux derniers mois de la guerre mondiale. Ma mère resta encore 2 ou 3 jours, prise en charge par le père Arnaud, son frère donc de Pritchiaïnia, tandis que moi-même me souciais fort peu de lui adoucir la séparation et m'incorporer d'emblée à la vie de prière et de jeu de mes nouveaux compagnons. Elle partit. Et je me vois au fronton du bois, parmi mes bruyants partenaires, saisi soudain d'un étrange sentiment de vide intérieur, d'une sorte d'asphyxie. « Qu'est-ce qu'il a ?» demanda quelqu'un. « Le cafard, » répondit un autre. Je continuai de jouer, sans pleurer. Le temps fit son œuvre, la cour des bénédictins, comme disaient les séminaristes, devint mon pays. Et quel pays ? Jean-Pierre Enda commence ses études avec les élèves du petit séminaire. En 1926, ceux-ci rejoignent leur nouvel édifice à Ustaritz. Voilà présent Jean-Pierre à Lascano, où les moines ont préféré installer l'alumna pour des raisons économiques essentiellement, mais aussi pour garder les recrues du Guipuscois, pour la plupart destinées à Niño Dios en Argentine. Jean-Pierre montre très tôt son attirance pour les lettres. Il raconte. Avec le père d'Assens, fraîchement ordonné prêtre, je me souviens d'une lecture qu'il nous fit du premier acte de Phèdre, de sa voix d'or, le feu de son regard ne quittant le livre que pour plonger dans nos yeux. Je sortis de la classe ivre et dévoré d'un trait toute la tragédie, entendant à chaque réplique le timbre qui m'avait envoûté. Après ses études de philosophie et de théologie, interrompues par le service militaire effectué à Pau et à Bordeaux, il est ordonné prêtre en 1935. Ses supérieurs l'envoient faire un doctorat de lettres à la faculté de Lille. Il deviendra d'ailleurs un spécialiste de Francis Jean. Mais la guerre survint. Le voilà prisonnier en Poméranie où il apprend l'allemand. De retour de captivité, il est nommé directeur de l'alumna de 1945 à 49, année où il est élu père abbé. Des défis colossaux l'attendent. Le monde a changé. Les nouvelles vocations ne viennent plus de l'alumnat. Faut-il continuer à missionner à travers le diocèse? Ou plutôt, faire en sorte d'attirer au monastère ceux qui veulent effectuer des retraites et recevoir des formations? Fortement épaulé par Xavier Diars, il accédère. Il entreprend de soigner la liturgie. Il y introduit le grégorien. Soucieux de la formation des jeunes moines, il n'hésite pas à les envoyer se former. Voici le concile et son grand aggiornamento. Le Perenda ouvre Belloc aux rencontres écuméniques. Il est également question de construire une nouvelle église en lieu et place de l'ancienne chapelle qui n'est plus adaptée. Mais la communauté se divise. En effet, pour financer les travaux, il faut vendre la propriété de Saint-Léon à Pau. Les anciens ne sont pas d'accord. L'atmosphère n'est pas paisible. Finalement, après bien des consultations et arbitrages, la construction de l'église commence. Et son inauguration par Mgr Vincent, évêque de Bayonne, se tint en septembre 1969. Toute une époque de Belloc se terminait. On passait d'une orientation missionnaire à une orientation monastique marquée par l'importance donnée à la liturgie et à l'étude. Auparavant, Belloc s'était lancé dans une nouvelle fondation en Afrique, au Dahomey, le Bénin actuel. En effet, le 3 novembre 1962, par un vote massif en faveur d'une fondation à Sanyanado, dans le diocèse de Cotonou, Belloc exprima sa volonté missionnaire, répondant alors à un appel de Mgr Gantin. Sur son invitation, le père abbé Jean-Pierre Enda avait entrepris un voyage d'exploration avec son compatriote des Aldudes Adrien Gachitegui, que nous allons retrouver dans un prochain épisode. À 60 ans et après 20 ans d'abbatiat, Jean-Pierre Enda démissionne de sa charge. Il passe 3 mois de retraite à la trappe de Notre-Dame du Désert près de Toulouse, avant de revenir à Belloc. Homme de contact, chaleureux, fraternel et apprécié de tous, il mourut à 76 ans, en 1987, d'une crise cardiaque. On retiendra également son attachement à son village natal, où sa sœur Marie-Jeanne assura pendant des années le service du chant à l'église, accompagnant également les offices à l'harmonium. Mais nous ne pouvons pas quitter le père Enda sans parler de la fameuse affaire Finali dans laquelle il sera impliqué et dont il favorisera le dénouement. Mais cela, nous en parlerons la prochaine fois.
À la prochaine fois, Michael Ramospé, et merci.